Il y a des choses simples à dire d'abord sur le roman. D'abord, une définition du roman. Elle est simple, c'est un roman est un long récit en prose. Alors, long, ne me demande, un long récit en prose. Un long récit en prose. Alors, ne me demandez pas exactement quand commence ce qui est vraiment long. On pourra en discuter. Parce qu'il y a des romans très brefs. Il y a des romans très longs, il y a des romans de 200 pages imprimés de manière très large. Ce sont des romans brefs, vous avez à l'inverse ce qu'on appelle des romans fleuves, aussi longs que le cours d'un fleuve, qui peuvent être des romans en plusieurs tomes. Les mesures sont absolument extrêmes, mais si on dit un récit long, c'est pour opposer clairement le roman a un autre type de récit qui est la nouvelle comme une nouvelle, qui est par définition un récit bref. Alors, un récit bref veut dire de quelques pages à quelques dizaines de pages. Donc, roman, récit long, par opposition à récit bref, nouvelle. Donc, le roman est ce qui est au-delà, pour donner une mesure, d'une centaine de pages. Et qui peut aller, qui, encore une fois, peut aller jusqu'à être en plusieurs tomes, hein, comme dans le cas des romans fleuves, ou comme dans le cas de ce qui se pratique plus beaucoup aujourd'hui, mais qu'on appelait le roman feuilleton. Un roman feuilleton parce que des morceaux de ces romans étaient publiés dans des journaux quotidiens. Donc c'était une feuilleton ou bien du mot feuille, hein, donc une feuille de roman dans le journal quotidien. Et ça pouvait durer très longtemps, ça pouvait durer des mois, des années. Donc l'idée de longueur. Alors l'idée de récit est simple. Faire un récit, c'est correspond au fait de raconter une histoire. On peut raconter une histoire de diverses manières, mais la base du constat, la base du fait, c'est le fait de raconter une histoire. Alors, donc, le roman est un récit, se confond avec le fait de raconter une histoire longue. En prose. Alors, en prose veut dire par opposition à quelque chose qui est écrit en vers. Effectivement, aujourd'hui, vous ne verrez guère de romans, hormis par amusement, qui présentent une versification à l'intérieur du roman. Il peut y avoir quelques pages qui sont des pages versifiées, mais. Alors, si vous voulez, c'est important parce que c'est une très grande distinction dans l'histoire de la littérature, prose, versification, et le roman tel qu'il est usuellement défini de manière un peu stricte est un type de récit qui est en prose. Parce que vous avez des récits qui sont des récits en vers, ou des récits de forme poétique. Les grandes épopées de l'Antiquité, l'Iliade et l'Odyssée, sont des récits, pas très longs au total, mais qui ne sont pas en prose. Donc, un récit long en prose. Alors, donc, opposition à la nouvelle, opposition à la poésie, et par définition aussi opposition au théâtre. Le récit est quelque chose qu'on dit oralement, qu'on lit par écrit, mais ce n'est en principe, ce n'est pas quelque chose qui est représenté, comme diraient les critiques, par la parole vivante d'un acteur. distinction d'avec le théâtre, distinction d'avec le récit bref, distinction d'avec la versification et la poésie. Alors, c'est donc un récit long en prose. Alors, toutes ces distinctions vous expliquent déjà quelque chose de simple. Que le roman soit aujourd'hui le genre littéraire le plus écrit et le plus lu. Alors, aussi bien en France que dans d'autres pays. Alors, il est le genre le plus lu et le plus écrit, pour une raison simple. La poésie est un exercice qui est pratiqué de manière de plus en plus rare. La nouvelle, au moins en France, est un exercice littéraire qui n'a jamais été, au moins depuis le XVIIIe siècle, un exercice important ou dominant. Quant au théâtre, il est radicalement distinct du roman, et vous savez comme moi, le théâtre présente des contraintes d'exercice. Il faut une scène, il faut un lieu, il faut un décor, etc. Donc des contraintes d'exercice et de pratique, tandis que le roman, il suffit d'avoir un livre imprimé entre les mains. Et ce sont ces données qui expliquent encore une fois, sociologiquement et culturellement, l'importance du roman. Aujourd'hui, alors, le roman n'a pas toujours été historiquement le genre le plus important, ils s'en foutent beaucoup. Au XIXe siècle, le genre culturellement le plus important était le théâtre. Alors que le roman avait déjà une existence en termes de lecture et d'écriture réelle. Et tout à l'heure, on fera un peu d'histoire du roman, mais l'histoire du roman, l'histoire de la manière dont le roman finit par s'imposer et par être reconnu, est finalement une histoire, vous le verrez, assez lente. Assez lente et qui trouve au fond son premier grand moment d'affirmation à la fin du XVIIIe siècle et au cours du XIXe siècle. Ça, c'est donc une définition et un premier cadrage du terme de roman. Alors, le mot même « roman » veut dire que désigner à l'origine des textes écrits, alors, comme disent les linguistes, en langue vulgaire, c'est-à-dire en langue française par opposition à la langue latine. Dans roman, il y a romain. Dans roman, il y a latin. Évidemment, les romans ne sont pas nécessairement écrits en latin, même aujourd'hui, mais ça c'est pour vous désigner l'origine du terme qui en elle-même est oublié aujourd'hui. Alors, pour vous donner une idée de l'importance du roman dans notre propre société, dans notre propre culture, c'est un chiffre très élevé, il se publie à peu près 700 romans, c'est-à-dire 700 titres de romans par an. C'est considérable, c'est de très loin le genre littéraire le plus édité. Alors, ces 700 titres de romans comprennent des romans nouveaux, comprennent des romans réédités et comprennent évidemment des romans traduits en français de romans étrangers. Mais le chiffre est considérable et par ailleurs, là aussi c'est une autre mesure de l'importance culturelle du roman, en France chaque année sont décernés à peu près 1500 prix littéraires, ce qui est un chiffre considérable. En général à l'automne, jusqu'au début du mois de janvier, 1500 prix littéraires. Parmi ces 1500 prix littéraires, un très grand nombre et les plus importants concernent le roman. Un des prix littéraires les plus connus, le prix Goncourt, est un prix décerné à un roman. En termes de lecture publique, si on examine, par exemple, les emprunts des livres dans une bibliothèque, municipale, une bibliothèque de lycée, une bibliothèque donc ouverte au public, les ouvrages de théâtre, de poésie ne sont pratiquement pas empruntés, les romans le sont cependant souvent moins que les essais relatifs à l'actualité ou relatifs à des questions pratiques, mais dans une bibliothèque donc municipale, publique, etc., le roman, dans le cadre littéraire, est de très loin le genre le plus emprunté et même éventuellement le seul genre littéraire emprunté. Alors, à partir de ce constat que le roman dans une bibliothèque publique est le type de littérature le plus emprunté, on peut se poser une question, c'est comment les romans sont lus par les gens qui les empruntent. La même question vaudrait à propos des gens qui évidemment achètent des romans. Alors, il se trouve donc que j'ai eu l'occasion de connaître des enquêtes de ce type menées sur les lecteurs. Alors, les gens lisent des romans, au fond, lorsqu'on les interroge, pour trois raisons. Une première raison, qui est la recherche d'une information. Enfin, beaucoup de gens lisent des romans, au fond, pour apprendre quelque chose sur le sujet dont parle le roman. Par exemple, je pourrais lire un roman qui évoque Tokyo. Je pourrais lire un roman qui évoque Tokyo pour apprendre des choses sur Tokyo. Je pourrais lire un roman d'espionnage pour apprendre des choses sur les méthodes de l'espionnage. Ainsi de suite. Et ça, c'est une des motivations principales de la lecture des romans. Il y a une seconde motivation qui est également importante, qui est l'exercice de l'imagination. Après tout, lorsque je lis un roman, c'est comme lorsque je regarde un film, je ne suis pas soumis à la réalité immédiate, je me libère de la réalité immédiate, donc, lisant le roman, je me donne à une sorte d'exercice d'imagination. Et enfin, dans les types de réponses données par les lecteurs, il y a une troisième raison, alors qui, je dirais, veut être proprement littéraire, qui est en quoi je reconnais dans un roman que je lis les caractères d'un roman, ou en quoi le roman que je lis m'apparaît comme véritablement romanesque. Alors, je vais revenir tout à l'heure là, sur ce point. Un roman vous paraît au lecteur véritablement romanesque s'il raconte une belle histoire. Mais ce n'est pas éventuellement la seule raison. Un roman apparaîtra véritablement romanesque à un lecteur si le roman est construit de telle manière qu'il apparaisse avec une action bien organisée, des personnages bien typés, bien clairs, etc. Donc, si vous voulez, prendre de l'intérêt au roman comme roman, c'est au fond commencer à juger le roman qu'on est en train de lire. Donc, recherche d'une information, jeu d'imagination, et finalement, appréciation du roman qu'on est en train de lire. Étant entendu que cette appréciation est à la liberté du lecteur. Alors, bien évidemment, vous aussi le constatez en lisant vos journaux quotidiens ou les hebdomadaires, ce sont les romans qui font le plus fréquemment dans les journaux quotidiens, dans les hebdomadaires, l'objet de comptes rendus. Même chose, si vous regardez les quelques émissions littéraires qu'il y a à la télévision, ce sont aussi des romans qui font le plus souvent l'objet d'évocations à la télévision. Alors, je vous dis cela Parce que d'une part, cette abondance de contenu sur le roman reflète l'importance culturelle du roman aujourd'hui, mais par ailleurs, bien évidemment, ces comptes rendus reflètent le poids et la pression, peut-on dire, que les éditeurs mettent à faire reconnaître les romans qu'ils publient. Cela dit, des 700 romans, titres de romans qui sont publiés chaque année, de ces 700, il n'y a qu'une petite partie qui obtiennent des comptes rendus dans les journaux. Autrement dit, l'abondance des romans, si vous voulez, pose des romans publiés, là-bas, le grand nombre de romans publiés pose un autre problème qui est celui de la reconnaissance de tous ces romans publiés. Et au lecteur, ce grand nombre de romans publiés pose un problème très pratique, c'est comment choisir dans cette masse de romans publiés. Alors, là aussi, si on se tient aux enquêtes donc sur les lecteurs ont des attitudes extrêmement simples et sages. Alors, les âges de la vie auxquels on lit le plus, ce sont vos âges, c'est les âges pendant lesquels on fait ses études, alors y compris les études supérieures, les études à l'université, et ce sont les âges où on retrouve des loisirs, c'est-à-dire les âges où on commence à approcher de la retraite, où on est à la retraite, et entre-temps, bien évidemment, on lit cependant. Mais cela entraîne deux choses. Ça va entraîner deux choses simples. C'est que les choix des lecteurs sont faits en fonction des auteurs dont ils ont entendu parler pendant leurs études. Alors, pour vous, bien souvent, les lectures que vous faites sont des lectures obligées, hein, celles qu'on vous demande de faire. Donc, et pour les gens plus âgés, au fond, qui, dans leur système de choix, se rappellent d'abord de ceux dont on leur a parlé pendant leurs études. Et à cela s'ajoute donc l'influence des critiques littéraires, l'influence de la publicité, hein, littéraire aussi, et aussi ce qu'on appelle le bouche à oreille. Hein. J'ai lu quelque chose d'intéressant, tu pourrais le lire aussi, etc. Voilà. Mais ce dont il faut que vous ayez conscience très clairement, c'est que le roman est véritablement un environnement culturel tout à fait central pour nous aujourd'hui. Alors, ce qui ne veut pas dire que le roman soit seul à avoir une importance culturelle aujourd'hui. Il est évident que le roman est dans une sorte de compétition avec d'autres modes d'expression, et en particulier les médias visuels, que ce soit le cinéma ou la télévision. Hein. Et ça aussi, vous le savez, un des signes les plus nets de cette compétition est que bien des éditeurs rééditent des romans en citant sur la couverture d'abord le film tiré du roman et en citant après le titre du roman lui-même. Ce qui donne le signe de l'importance de la référence au cinéma pour éventuellement entrer dans un roman. Hein, voilà, ça c'est pour vous cadrer les choses un petit peu culturellement. Je vous ai donc donné la définition du roman, donné l'origine du mot. Alors, le roman est ce qu'on appelle un genre littéraire. Alors, le terme de genre littéraire mérite d'être un tout petit peu expliqué. La littérature, la création littéraire est quelque chose d'extrêmement divers et que depuis fort longtemps, depuis Aristote au moins, on a divisé en types d'œuvres, en sortes d'œuvres, et on appelle, au fond, ces sortes d'œuvres des genres littéraires. Alors, les trois grands genres que distinguait Aristote étaient le théâtre, la poésie et le récit. Donc, théâtre, poésie, récit, et ce sont les grandes distinctions sous lesquelles on vit encore et sous lesquelles les écrivains écrivent encore. Autrement dit, ces distinctions n'étaient pas des distinctions artificielles, elles correspondaient à la réalité des pratiques de la littérature. Dans ce classement des genres, le roman relève donc du récit, et petit à petit, le roman s'est lui-même, ou a lui-même été distingué comme un genre spécifique qui avait une définition propre. Le roman est un récit long en prose. Ce genre littéraire lui-même a présente énormément de sous-genres. Alors, sous-genre veut dire que ce sont des genres à l'intérieur du genre du roman. Alors, vous avez tous entendu parler de romans de science-fiction, de romans policiers, de romans fantastiques, de romans psychologiques, de romans d'aventure, et peut-être d'autres types de romans encore. Tout cela, ce sont les sous-genres du roman. Donc je vous parlerai avec un peu plus de précision, mais les sous-genres du roman, il faut le dire immédiatement, correspondent pour chaque sous-genre à un certain type de thème, de contenu, à un certain type d'intrigue. Le contenu et l'intrigue d'un roman d'aventure ne seront pas le contenu et l'intrigue d'un roman psychologique. Le contenu et l'intrigue d'un roman policier ne seront pas ceux d'un roman de science-fiction. Il y a donc une division du genre suivant des thématiques et des types d'intrigues. Et aujourd'hui, les types de genre ou de sous-genre du roman qui ont le plus de succès, ce sont les romans policiers et les romans de science-fiction. Alors, si vous entrez dans une librairie, ce sont les rayons qui sont le plus garnis en exemplaires de romans. Alors, on pourrait expliquer pourquoi il y a cette situation de déséquilibre aujourd'hui dans les genres de romans, et que le roman de science-fiction ou le roman policier l'emporte de très loin en termes de lecture publique. Alors, je ne vais pas me lancer dans une histoire du roman parce que ce serait beaucoup trop long, mais au fond, il y a pour ce qui est de ce qu'on appelle le roman moderne, c'est-à-dire le roman à partir du XVIe siècle, du XVe, du XVIe siècle, il y a quelques grands titres pour la littérature française. Je pense que le tiers livre de Panurge, le tiers livre de Rabelais qui a pour personnage principal Panurge, que le tiers livre de Rabelais qui succède à Gargantua et à Pantagruel. Et le premier grand exemple de roman en France qui présente un personnage individualisé, Panurge. Pour la littérature espagnole, l'exemple fondateur du roman pour la littérature espagnole, c'est le Don Quichotte de Cervantes. Le Don Quichotte de l'écrivain qui s'appelle Cervantes. Pour la littérature anglaise, on pourrait citer plusieurs auteurs, mais parmi les grands romans fondateurs du roman dans la littérature anglaise, il y a les aventures de Robinson Crusoe, de Defoe, qui nous sont à nous usuellement présentés hein, comme un roman pour la jeunesse, ou quasiment un roman pour enfants, ce qui est une lecture complètement fausse de Robinson Crusoe. Il y a aussi un autre grand exemple de type de roman, c'est le roman de Goethe, l'écrivain allemand. Hein, le roman s'intitule Les années d'apprentissage de Wilhelm Meister, nom du personnage principal du roman, qui est le premier grand exemple de roman d'éducation, hein, qui est un type de roman, ou un sous-genre du roman. Alors, qu'est-ce que veut dire roman d'éducation? C'est le roman qui narre, comment quelqu'un de jeune fait l'apprentissage du monde, apprend le monde, hein, ce qui sera une grande thématique du roman au XIXe siècle. Hein, ça, c'est pour les... Alors, et parmi des romans français qu'il faut citer, parce qu'ils ont eu leur actualité il y a un an et demi ou à peu près, il y a La princesse de Clèves de Madame de Lafayette, un roman du XVIIe siècle, qui est en général donné par la critique comme l'exemple même du roman psychologique. Hein, on pourrait multiplier les exemples, mais je me tiens à ces choses-là. Donc ça, ce sont les éléments historiques, étant entendu que le développement du genre du roman et de son importance est inégal suivant les pays considérés. Hein. Les pays qui ont les développements du roman les plus nets et les plus rapides sont l'Angleterre et la France, bon, pour des raisons historiques qu'on n'expliquera pas. Alors, ça c'est d'histoire. Donc il y a les genres, les sous-genres du roman, les types de romans, il y a cette esquisse rapide d'un arrière-plan d'une histoire du roman. Alors, il y a aussi ce que j'appellerais, d'un mot savant, les esthétiques du roman. Au fond, quelle définition ou quelle approche artistique se donne le roman, ou se donne un roman? Alors, d'un point de vue d'histoire littéraire, on parlera pour le XVIIe siècle de roman baroque. On parlera pour le XIXe siècle, tous les grands romanciers que vous connaissez, français, Balzac, Flaubert, Zola. Il faudrait ajouter des romanciers étrangers comme anglais comme Dickens, allemands comme Fontane et d'autres. On parlera de romans réalistes. Alors réalistes pourquoi? Parce qu'en principe, ils évoquent et représentent la réalité telle qu'elle est. Hein? Réalisme veut dire qu'on évoque et qu'on représente la réalité telle qu'elle est. Alors, vaste question, est-ce qu'il est bien vrai que ces romans évoquent et représentent la réalité telle qu'elle est? Très vaste question qui serait interminable, que vous pouvez voir avec vos professeurs, hein, mais là on n'a pas le temps même d'entrer un tout petit peu. Ça c'est pour le 19e siècle, il existe encore aujourd'hui évidemment des romans réalistes. Hein. Alors, il y a aussi, au XXe siècle, des romans qu'on appelle modernistes. Le moderniste vient de moderne, moderniste, hein, I-S-T-E à la fin, qui désigne des romans en général écrits dans les années 1920-1930. Le grand exemple de roman moderniste est un roman d'un auteur irlandais qui s'appelle Joyce, J-O-Y-C-E, et qui a écrit un roman qui s'intitule Ulysse, hein, le nom du héros d'Homère, Ulysse, roman qui décrit 24 heures dans la vie d'un homme à Dublin. Modernisme, parce que c'est un roman qui crée un certain nombre de techniques narratives nouvelle. D'où l'idée de modernisme. Et aujourd'hui, vous avez le roman contemporain, qu'on appelle aussi parfois un roman post-moderne, c'est-à-dire qui vient après le modernisme. Et le roman contemporain est quelque chose d'extrêmement mélangé. Il y a du roman réaliste, du roman d'innovation formelle. Il y a tous les romans étrangers traduits qui représentent d'autres traditions de romans. Enfin, lié toujours au roman, il y a la notion de fiction. Parce qu'au fond, quand vous lisez un roman, même si vous lisez un roman réaliste, vous lisez quelque chose qui est inventé. Même si je transforme en roman tout ce que j'ai fait, par exemple, depuis 10 jours, et que je vous dis, je vous raconte la vérité, je vais quand même reconstruire par mon histoire tout ce que j'ai fait pendant 10 jours. Autrement dit, la notion de roman est indissociable de la notion de fiction. Alors, qu'est-ce que veut dire fiction ? Fiction, au sens étymologique, veut dire fin, quelque chose qui est fin, comme dans une feinte. C'est donc quelque chose qui est faux, simplement une fiction littéraire ne cherche pas à nous tromper, à nous mentir. Elle nous présente quelque chose qui est effectivement inventé, et inventé de telle manière que ça puisse cependant ressembler à des discours qu'on entendrait n'importe où, des choses qu'on pourrait dire n'importe où, des événements qu'on pourrait, dont on pourrait entendre parler n'importe où. Donc, roman, fiction. Et c'est là où je réintroduis le mot de romanesque, roman, fiction, romanesque. Au fond, le romanesque, c'est la fiction que je lis en lisant un roman qui m'apparaît comme un univers à elle seule. Quand je lis un roman, je peux le lire de manière extrêmement sobre. Le personnage fait ceci, le personnage fait cela, les réalités évoquées sont celles-ci. Je peux aussi le lire comme l'évocation d'un univers complet, dans lequel je peux me perdre. C'est ce que fait faire Flaubert à son personnage Madame Bovary dans le roman Madame Bovary. Et c'est ce que nous faisons, nous, lecteurs, en général, quand nous lisons des romans. Donc, roman, fiction, romanesque. Et il y a un grand théoricien du roman anglais qui s'appelait Foster, peu importe son nom, qui s'est demandé pourquoi les romans racontent beaucoup d'histoires d'amour. Alors, la réponse de ce Foster, qui par ailleurs était un romancier, est intéressante. Il ne répond pas, les romans racontent beaucoup d'histoires d'amour parce qu'on tombe souvent amoureux, etc. Il dit, les romans racontent beaucoup d'histoires d'amour pour deux raisons. Parce que l'amour est un sentiment qui se prête à une analyse sans fin. Donc, oui, on entre facilement dans l'univers de la fiction et du romanesque. Et parce que l'amour peut être en lui-même un univers complet. Alors, on pourrait faire le même raisonnement pour le roman d'aventure. Le roman d'aventure est un roman bien reconnu, beaucoup lu, parce que c'est un roman qui ne privilégie sans doute pas le sentiment amoureux, mais c'est un roman qui, par définition, invite à découvrir des univers à travers les épreuves, les aventures que subissent les personnages. Donc, la manière dont le roman est conçu permet au lecteur, au fond, d'entrer très facilement dans le roman conçu, reconnu comme un univers. Alors, on pourrait s'amuser à évoquer tous les débats autour du roman aujourd'hui ou depuis une quarantaine d'années. Alors, je vous cite quelques éléments de débat hein, pour que vous ayez quelques idées à ce propos. Par exemple, il y a eu l'expression que vous rencontrerez souvent si vous lisez les chapitres d'histoire littéraire de vos manuels, la notion de nouveau roman. Nouveau roman en France est un roman qui s'écrit à partir des années 1950 et qui est un roman qui conteste les romans écrits avant et qui conteste en particulier le grand roman réaliste du 19e siècle. Vous avez aussi une autre notion qui a été beaucoup utilisée, celle d'anti-roman. Anti, comme on dit quelque chose, roman, donc un roman qui est un anti-roman, c'est-à-dire un roman qui entend ne pas observer les règles, les codes, les conventions, les habitudes du roman ou du roman tel qu'on l'écrit habituellement. Vous avez aussi un autre type de roman aujourd'hui qui est appelé autofiction. Autofiction, alors fiction, discours fin, discours inventé, mais auto, ça veut dire à propos de moi-même, hein, comme dans l'autobiographie. Donc, l'autofiction. Un grand nombre de romans aujourd'hui sont des sortes d'autofiction où l'auteur, alors, on ne peut pas dire se raconte à proprement parler, puisqu'il s'agit d'une autofiction, enfin, présente des éléments de sa vie personnelle sous une forme de fiction. Et évidemment, il faudrait parler des romans de science-fiction et des romans policiers. Je crois personnellement que les romans policiers et les romans de science-fiction ont un très grand succès pour la raison suivante. Au fond, qu'est-ce que font les romans de science-fiction ? Ils nous décrivent des lieux, des temps, des époques, à des distances temporelles absolument gigantesques, qui par définition n'appartiendront jamais à l'histoire humaine. Hein, quand on situe des aventures de science-fiction à des millions d'années d'aujourd'hui, une mesure de temps en millions d'années n'appartient pas à la mesure de l'histoire humaine. On dit, ce sont des histoires qui, temporellement, sont hors de notre temps. Même du temps le plus large qu'on puisse concevoir. Et au fond, c'est une espèce, ce sont des romans qui sont complètement extérieurs à notre monde, même s'ils évoquent des données de notre monde. Et au fond, c'est donc une manière de regarder notre monde du dehors. Et je pense que ce regard extérieur, d'un point de vue temporel, explique le succès. Et enfin, le roman policier a un grand succès, bon, parce que sont en général des romans à intrigue forte, hein, qui est le coupable, qui a tué, etc. Mais comme disent certains critiques, après tout, être un meurtrier n'est pas quelque chose tout à fait commun dans nos vies, Dieu merci, ou dans les milieux dans lesquels nous vivons. Donc, dans la représentation du meurtre et du meurtrier, dans la représentation la plus absolue de la transgression, hein, donc de la faute contre l'ordre humain et contre l'homme, bon, c'est ça l'objet du roman policier. Et on dit donc le roman policier présente le même caractère d'extériorité par rapport à notre vie quotidienne que le roman de science-fiction. Simplement, le roman de science-fiction, c'est une extériorité du point de vue du temps. Le roman policier, c'est une extériorité du point de vue de la violence, de la transgression, de la rupture, hein, de la rupture de l'ordre du nature à point. Encore que tous les romans policiers ne soient pas des romans de meurtre. Et donc, aujourd'hui, donc, les nouveaux romans, etc., les type de nouvelle dénomination, le succès du roman policier, du roman de science-fiction, et enfin les types de romans qui sont au fond à la recherche de nouvelles voies, c'est personnellement la manière dont je lis, pas seulement depuis cette année, dont je lis celui qui a eu le prix Goncourt cette année, Houellebecq. Par exemple, un des romans de Houellebecq, celui qui a été publié en 2006, s'intitule « La possibilité du Nil ». Je vous ai dit tout à l'heure qu'un roman consiste à raconter une histoire longue, et raconter une histoire, c'est par définition raconter le passé. Or, le roman de Houellebecq commence par quelque chose qui est extraordinaire pour un roman, commence par dire « Je ne peux pas raconter le passé ». Autrement dit, le roman de Houellebecq se construit sur un paradoxe. Hein? Je suis un récit, mais un récit qui est au fond coupé, éloigné de ce qu'il devrait raconter, c'est-à-dire le passé. Et c'est sur ce paradoxe que le roman est construit. Alors, il faudrait évoquer aussi l'importance du roman étranger en France aujourd'hui. Je ne vous citerai qu'un seul titre, précisément à cause du titre, pour vous montrer comment on peut jouer dans un roman sur les personnages et sur les noms. Un écrivain japonais, Haruki Murakami, M-U-R-A-K-A-M-I, a écrit un roman dont le titre est Kafka sur le rivage, roman qui se passe à Tokyo. Kafka est le prénom du personnage principal du roman. Ce personnage principal n'a rien à faire avec l'écrivain Kafka ou avec les personnages de l'écrivain Kafka. Ça n'a pas empêché les lecteurs et la critique de lire ce roman comme si c'était un roman inspiré de Kafka. C'est là pour vous dire que nous pouvons lire un roman, et c'est cela l'intérêt d'un univers romanesque, nous pouvons lire un roman de bien des manières et selon notre liberté. Ce sera mes derniers mots. Maintenant, Jean-Paul Sartre, un écrivain philosophe et aussi romancier, a écrit une série de romans qui s'intitulait « Les chemins de la liberté ». Et ce sont aussi les chemins de la liberté du lecteur. Voilà. Merci à tous, puisque je pense que je suis autour des trois quarts d'heure qu'on avait prévu.